Où étiez-vous, les amis, le 24 janvier 1984? Alors peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés, d'autres peut-être oui. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez exactement ce que vous faisiez le 24 janvier de l'année 1984. C'est à cette date, il y a 40 ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'un événement retentissant a eu lieu, un événement qui a transformé pour toujours le monde de l'informatique. On est à Cupertino, en Californie, et ce jour-là, Steve Jobs va dévoiler aux yeux du monde entier le Macintosh, le premier ordinateur à usage personnel. Cet ordinateur, il est petit, il est élégant, et il a une interface ludique et intuitive qui va tordre le cou à tous les mastodontes du secteur comme IBM. Alors, quel anniversaire, les amis? Happy birthday, Macintosh! Alors, à l'occasion de cet anniversaire, je vous repartage le podcast que j'avais fait il y a 3 ans. C'était pour fêter les 44 ans de la naissance d'Apple. C'était le 1er avril 1976. Steve Wozniak et Steve Jobs fondaient la firme Apple dans un garage en Californie. Depuis, l'entreprise, elle a beaucoup évolué, bien sûr, hein, et elle a même réussi en 4 décennies, donc, à devenir la marque la plus puissante au monde. Alors, c'est pas un parcours linéaire, hein, c'est pas un parcours sans faute, bien au contraire. La marque a connu des hauts et des bas. Elle a même bien failli disparaître, hein, à plusieurs reprises, notamment dans les années 90. Son statut actuel de superstar, il est dû à plusieurs facteurs qui ont servi à façonner, à construire son succès et sa légende. Et je vous propose de les étudier en 4 points clés avec donc ce podcast que je vous repartage aujourd'hui. Alors, pour fêter cet anniversaire qui marque les 40 ans du lancement du Macintosh, je vous invite à tenter de remporter la biographie officielle de Steve Jobs par Walter Isaacson. Je l'ai lue, elle est fascinante, on apprend vraiment les coulisses du lancement du Macintosh, mais aussi de la création de l'entreprise, de tous les remous qu'il y a pu y avoir jusqu'à le succès de l'iMac, de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad, voilà tous les succès qu'on connaît aujourd'hui. Alors pour tenter de remporter ce livre, je vous invite à cliquer sur le lien tout en bas, c'est l'empreintedigital.com/concours. Voilà, vous pouvez juste rentrer votre email et puis vous surveillez votre boîte aux lettres dans les prochains jours. Le gagnant sera informé par email. Voilà, les amis, je vous invite à réécouter ce podcast qui s'appelait Comment expliquer le succès d'Apple en 4 points clés. Et je vous retrouve à la fin de cet épisode. À tout à l'heure. Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. Je vous invite à plonger dans les coulisses d'une entreprise hors norme et d'analyser ensemble le succès d'Apple en 4 points clés. Ans et au top de la forme. Alors c'est pas moi, c'est Apple, vous l'avez compris. L'entreprise a été fondée le 1er avril, c'est pas une blague. C'était le 1er avril 1976 en Californie, de génie de l'époque, de Steve Wozniak, Steve Jobs, qui fondent l'entreprise Apple dans un garage. Et bien entendu, aucun des deux, j'imagine, ne pensait que quelques décennies plus tard, cette marque serait l'entreprise la plus valorisée au monde. L'entreprise Apple a franchi cette année, à la rentrée, le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est la première entreprise techno qui a réussi à le faire. Deuxième entreprise au monde, il y avait une autre entreprise juste avant elle, plus traditionnelle. Mais c'est la première entreprise techno qui a réussi à franchir ce cap de 2000 milliards de dollars. Il n'y a pas si longtemps, il y a presque 2 ans, j'écrivais un article de blog pour parler justement de Apple qui franchissait la barre du 1000 milliards de dollars de valorisation avec Amazon. Et puis là, en à peu près 2 ans, l'entreprise, imaginez, sa valorisation boursière a été multipliée par 2. C'est tout simplement stratosphérique. 2000 milliards de dollars, on a du mal à s'imaginer ce que ça peut représenter. Dites-vous juste un truc pour essayer de se l'imager un petit peu. C'est comme si vous aviez mis sur un compte d'épargne 2,7 millions de dollars chaque jour depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Vous faites 2,7 millions, vous le multipliez par 365 jours et par 2020 années, et ça vous donnera la somme de 2000 milliards de dollars. Voilà ce que pèse aujourd'hui cette entreprise qui est née dans un garage en Californie. Rappel, hein, c'est l'iPhone avant tout, hein, 2007, c'est un produit aujourd'hui incontournable, c'est le produit star de la marque, on le trouve dans toutes les poches, dans tous les cartables, dans tous les sacs à main, dans tous les attaché case, c'est un produit iconique, incontournable, qui a permis à la marque de se positionner à la première place des marques les plus puissantes depuis 2014. Il y a un classement qui s'appelle Best Global Brands, qui classifie les marques les plus puissantes. Je suis parti d'une génération où c'était Coca-Cola pendant de nombreuses années qui trônait en tête de ce palmarès. Depuis 2014, c'est la firme à la pomme. Alors, la réussite d'Apple, elle ne s'est pas faite en un jour, clairement. Hein. L'entreprise est née il y a un petit peu plus de 40 ans, le 1er janvier 1976, comme je vous disais un petit instant. Mais cette entreprise a même failli disparaître à plusieurs reprises. Hein. Lorsque Steve Jobs a repris les rênes de la société il y a quelques décennies à présent, il a sauvé la marque, clairement, il a sauvé l'entreprise. Et aujourd'hui, le statut d'Apple, il est juste hors norme, quoi. Et ce statut, justement, est dû à plusieurs facteurs qui ont servi à façonner et construire son succès. Et c'est ce que je vous propose d'étudier en 4 points clés. On va regarder les 4 points qui font que cette marque est tellement différente. Premier point, c'est une marque qui est incarnée par un leader charismatique. Du moins, dans son histoire, il y a eu un leader charismatique, vous l'avez compris, c'est Steve Jobs. Apple, très simplement, on pourrait résumer son histoire de la façon suivante. Il était une fois deux Steve qui créa une société dans un garage en Californie au début des années 70. L'un des deux allait rester volontairement inconnu du grand public, Steve Wozniak, c'est l'ingénieur, le concepteur des produits, et puis l'autre allait devenir une icône planétaire, Steve Jobs, en inventant les produits les plus innovants du 21e siècle. La plupart des grandes sociétés modernes, elles ont en commun un leader historique. Hein. C'est ce qui renforce son storytelling. On pourrait parler d'Henry Ford, on pourrait parler de René Lacoste, on pourrait parler peut-être même d'Eugène Schoeller pour L'Oréal. On pourrait parler de Mark Zuckerberg, plus proche de nous, pour Facebook. Les sociétés emblématiques, même les plus récentes, ont toujours un leader charismatique historique. Ils incarnent à eux seuls l'entreprise et ses valeurs. Bah, Steve Jobs est clairement le parfait exemple. Hein. Son histoire, sa personnalité unique, servent à construire le mythe autour de la marque Apple et l'image qu'elle incarne. Même si Steve Jobs est malheureusement parti, et parti beaucoup trop tôt, dans tous les produits, il y a toujours cette approche, cette philosophie, cette patte qu'on retrouve encore. Premier point donc, un leader charismatique qui incarne la société, même s'il n'est plus présent aujourd'hui, mais il est là derrière, on retrouve du moins sa vista, on dirait, derrière tous les produits Apple. Deuxième point, des ruptures technologiques couplées avec une simplicité d'utilisation. Les produits Apple, ils ont vraiment une véritable rupture technologique. Hein. Lorsque l'iPhone était dévoilé, donc c'était le 9 janvier 2007, il a tout de suite ringardisé les téléphones classiques. Hein. Il a fait disparaître en quelques années des entreprises qui dominaient auparavant le secteur. Vous vous rappelez Nokia ou Motorola, ou vous vous rappelez aussi BlackBerry. Voilà, beaucoup avaient des BlackBerry avec le petit clavier qui était très pratique pour taper, du moins c'est ce qu'on se disait à l'époque. Lorsque Apple et Steve Jobs présentent le premier iPhone, d'un coup ils mettent une claque, hein. Clairement ils les renvoient à l'âge de pierre, on a tout de suite devant un appareil petit, différent, simple, joli, puissant, et du coup aux oubliettes les précédents leaders. Le génie de Steve Jobs et d'Apple c'est quoi ? Ça a été de réunir plusieurs fonctionnalités très utiles et populaires dans un même appareil, et de les mettre à disposition des utilisateurs dans un catalogue en ligne, l'App Store. Voilà. Alors, Apple, clairement, ils n'ont pas inventé toutes les technologies qu'ils proposaient dans l'iPhone. Hein. Ils ne sont pas à l'origine du téléphone portable, ni même de la tablette tactile, d'ailleurs. Mais la réussite de la firme californienne Cupertino, c'est d'avoir rendu accessible au grand public des produits technologiques qui, auparavant, étaient réservés à un public plutôt averti. On dirait aujourd'hui des nerds ou des geeks. Un ordinateur ou un téléphone portable, c'était compliqué parfois de connecter à des réseaux internet, vous rappelez le WAP et tout, c'était quand même pas simple. Le génie d'Apple, le génie de Steve Jobs, c'est de les rendre accessibles et de façon pratique. L'iPhone, c'était le premier produit de haute technologie à être vendu sans mode d'emploi. Ça, c'est quand même très fort. Hein. Vous pouviez le mettre dans les mains de votre mamie ou de votre bébé, il y a un bouton, il comprend très bien comment ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi. C'est pareil pour les iPads et les Apple Watch et autres. Tout autour d'un seul bouton. Voilà, c'était ça le génie au départ, hein. C'était ça la révolution, quoi. Et cette simplicité, évidemment, elle a conquis un large public, hein, des plus jeunes aux plus âgés, et donc elle a permis à la société américaine de passer d'un marché de niche à un marché de masse. On sort d'un marché de niche, de geek et de nerd, et on va directement sur un marché de masse pour se rendre accessible à 4, 5, 6 milliards de personnes. Et donc, on enregistre les énormes succès commerciaux qui vont avec. Donc, premier point, un leader charismatique qui incarne la marque. Deuxièmement, des ruptures technologiques avec une simplicité d'utilisation. Troisième point, une stratégie de différenciation qui est payante. Parce qu'une stratégie de rupture, elle n'est pas toujours d'ordre technologique, hein. Elle peut aussi être d'ordre comportemental, dans le rapport aux objets, hein, tout simplement, ou à leur utilisation. L'un des adversaires ou ennemis d'Apple, hein, au début, vous vous rappelez, c'était IBM. Hein, IBM. 1984, Apple va cibler volontairement son concurrent dans une publicité diffusée durant la mi-temps du Super Bowl. Hein, vous connaissez certainement cette histoire. Cette publicité, ce spot, il a clairement marqué l'histoire de la com. Il va être même qualifié, selon la presse spécialisée, de meilleure publicité de tous les temps. Hein. Elle a un petit peu vieilli, j'avoue, quand je la présente à mes étudiants, ils n'ont pas la claque qui va avec, le wow effect. Ceux de ma génération le comprennent bien, parce qu'on a vécu cette période. Mais en tout cas, ce coup d'éclat, c'est l'un des éléments fondateurs de l'identité et des valeurs d'Apple. La philosophie d'IBM, à l'époque, c'était simple, c'était Think. D'ailleurs, vous vous rappelez les ThinkPad et tout ça, hein, ces ordinateurs. Apple, donc, à cette époque, lance une nouvelle campagne publicitaire et le slogan, ils le détournent, ils font « Think different », penser différemment. Apple se positionne ainsi comme une marque, comment ? Bah, anticonformiste, audacieuse, différente et puis prête à révolutionner le monde. Tout l'image, tout l'inverse, tout l'opposé de celle institutionnelle et rigide d'IBM, hein, le dinosaure un peu, et en face de lui, il avait un petit animal qui sautait dans tous les sens, quoi. Par cette approche, Apple il affirmait sa position de leader, clairement, leader en termes de produits, d'innovation et de design. Alors aujourd'hui, ils sont un petit peu contournés parce que vous savez qu'il y a un procès avec Epic Games et Fortnite, et Epic Games a eu le culot, l'audace de détourner le clip 1984 contre Apple. Voilà, ils ont fait un petit peu, ils essaient de rendre la monnaie de leur pièce, mais enfin, on verra ce que donne ce procès, mais il y a fort à parier que ce soit Epic Games qui perde, et s'ils perdent ce procès, ils vont perdre gros parce que la boîte pourrait couler, hein, clairement. Hein. Donc, je vous renvoie à un épisode de podcast que j'ai pu faire précédemment sur justement le démêlé entre Epic Games et Apple. Alors, il n'est pas tout seul, Apple aujourd'hui, il a des concurrents, c'est des gros concurrents, hein, Samsung, Huawei par exemple, eux aussi, hein, ils ont des trésoreries conséquentes qui leur permettent d'investir massivement en recherche et développement, mais malgré tout, faut quand même reconnaître que Apple reste leader, hein, la locomotive, celui qui donne le ton et la vision en termes d'innovation. On vient de voir les nouveautés de la rentrée avec macOS 14, avec iOS 14, pardon, Apple Watch Series 6, un nouvel iPad de couleur, etc. Allez, je prends les paris, ça plaira peut-être pas à certains d'entre vous, mais je suis prêt à parier que ces innovations, qui sont juste des innovations en termes de design, hein, on va certainement les retrouver sur les appareils de leurs concurrents assez rapidement. C'est le cas, vous regardez les AirPods, vous regardez simplement le design de l'iPhone X, vous regardez tout ça. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez la concurrence. Quatrième point, le luxe est l'unique à portée de tous. Alors ça, c'est là aussi des critères différenciants d'Apple. Ils ont réussi à générer une véritable communauté autour de leurs produits. Hein. Les détenteurs d'un produit de la marque Apple ont l'impression de faire partie d'une élite, hein, d'être différent pour le coup. Et oui, think different. C'est un peu une caste, hein, quand même. C'est un signe d'appartenance. Ça, c'est très fort en termes de marque et de communication. Le positionnement de prix de la marque aussi, hein, est intéressant. Donc, en termes d'image, positionnement haut de gamme. Et puis, bien entendu, le positionnement prix qui va avec. Hein. Dans tous les pays développés, presque tout à chacun peut s'offrir un produit Apple. Hein. Ça reste assez coûteux, mais honnêtement, Samsung avait commencé à railler Apple lorsque l'iPhone X était sorti à plus de 1000 euros. Aujourd'hui, Samsung propose des appareils qui sont plus chers que ceux d'Apple. Donc ça reste assez coûteux, mais tout le monde peut se payer un produit Apple. Hein. C'est 1000 euros, maintenant ça fait 80 euros par mois, grosso modo. On peut tous à peu près épargner ça. Je reconnais que c'est coûteux et c'est cher. Ça reste un produit qui a un positionnement un petit peu élitiste. Mais bon, concrètement, économiquement, tout le monde peut à peu près se payer. Et c'est un positionnement prix qui est intéressant parce que ça lui permet de proposer des produits de luxe en les mettant à la portée de presque tous. C'est la même stratégie que Lacoste ou Hugo Boss dans le prêt-à-porter. C'est des positionnements super haut de gamme. Honnêtement, un polo Lacoste ou Hugo Boss à 60 ou 80 euros, c'est pas non plus voilà, ça reste à la portée d'à peu près toutes les bourses, quoi. Et je veux bien qu'effectivement, ce soit parfois difficile de boucler les fins de mois, mais c'est pas, bon, ce qu'on prend, c'est pas non plus des emprunts sur 20 ans pour se payer un polo, hein. Donc c'est un positionnement luxe, abordable, du moins plutôt accessible à tous. Et je connais particulièrement l'Amérique latine, je pourrais y avoir été de nombreuses fois, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pourtant ont des revenus modestes, et parfois ils ont un iPhone, hein. Ils le prennent à crédit, voilà, mais ils ont des produits malgré tout haut de gamme aussi et techno, hein. C'est le positionnement d'ailleurs de la marque à présent, hein, l'iPhone SE, hein, qui est sorti, l'iPhone XR un petit peu avant, et puis là l'Apple Watch SE, clairement ils vont cibler les plus jeunes. C'est simple, on prend un produit qui marche, produit star, iPhone, Apple Watch ou autre, on le modifie un petit peu mais pas avec de grosses différences, et puis on le propose à un prix inférieur à 500, 400, 300 dollars. En gros, c'est je peux me permettre d'avoir un produit Apple, mais sans avoir forcément besoin de flamber au niveau du porte-monnaie. Stratégie intelligente. En plus, là, ils viennent d'annoncer vraiment des nouveaux produits avec des prix qui sont vraiment abordables. Ça, je pense que c'est clairement l'effet crise sanitaire. Je pense, hein, c'est une position personnelle, mais je pense qu'ils ont bien compris qu'économiquement, cette année, ils pourront pas, ce sera pas la fête. Donc, s'ils veulent malgré tout continuer à faire tourner la machine à cash, ils ont besoin de proposer des produits toujours aussi innovants, toujours aussi beaux, toujours aussi séduisants, toujours aussi simples, toujours aussi techno, toujours aussi waouh, mais à des tarifs qui sont beaucoup plus abordables. Donc, on enlève un petit peu tout ce qui est artifice coûteux, et puis on se retrouve avec un produit, ma foi, qui est pas du tout bas de gamme, qui est super fonctionnel, qui est super joli, qui est super pratique dans l'environnement Apple qu'on aime, enfin si on l'aime ou si on l'aime pas, mais en tout cas c'est le produit qui marche bien dans l'univers de la marque, pour des tarifs qui sont donc accessibles au plus grand nombre. Alors c'est vrai, hein, que la politique tarifaire malgré tout reste élevée, on va attendre des prochains iPhones, mais c'est pas un frein en soi, quoi. Plus leur politique tarifaire est élitiste, plus ça participe pleinement à la stratégie globale de l'entreprise. Des produits grand public, à la simplicité, à la finition irréprochable, qui répondent à des besoins universels, et puis avec différentes gammes qui permettent d'être à la portée d'à peu près tous les porte-monnaies. Alors c'est une stratégie qui pourrait se résumer en un slogan, Think Global, ce serait pas Think Different, ce serait Think Global, hein, pensez à tout le monde. Bah, c'est un mot d'ordre que Tim Cook, le remplacement de Steve Jobs à présent, et ses équipes devront appliquer pendant les prochaines années, hein, pour conserver cette position de leadership s'il veut se maintenir dans le peloton de tête, hein, en tant que locomotive. Honnêtement, je leur fais confiance. Il y a des fois où j'ai été déçu, comme vous, sur les produits, les innovations Apple. J'attends vraiment le prochain iPhone. Je trouve que ce qu'on a vu sur l'Apple Watch, c'est sympa, mais c'est pas, je pense pas que tout le monde, enfin tous ceux qu'on a la 5e édition de l'Apple Watch vont pas forcément acheter la 6e. Peu avaient franchi le cap de l'iPhone 11, de ce que je peux voir dans les gens que je fréquente. Pas assez d'évolution entre les deux produits, entre le XS et le 11. Le XS était très stable, pas de vraie rupture technologique avec le 11. On attend le 12 avec impatience pour voir si clairement on passe encore une fois dans un autre monde, et ça fera certainement l'objet d'un prochain podcast. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Empreinte Digitale. Ciao! Voilà les amis, j'espère que vous aurez trouvé cet épisode passionnant. Alors vous avez vu, il est un petit peu antidaté parce qu'on parlait encore de l'iPhone 11 et ce genre de choses, de l'Apple Watch 5, mais enfin bon, je pense qu'il restait à peu près encore pertinent. Alors je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner la biographie officielle de Steve Jobs, rédigée par Walter Isaacson. Il suffit de cliquer sur le lien tout en bas de ce podcast. Et puis si vous voulez revivre aussi la keynote de lancement du premier Macintosh le 24 janvier 1984, je vous ai mis un lien YouTube également dans la description de ce podcast. Les amis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et encore une fois, Happy Birthday Apple, Happy Birthday Macintosh. Salut à tous.